Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sacha Guitry l'avait surnommée notre dame du théâtre, avec sa silhouette longiligne et ses yeux en amande. Sarah Bernard a marqué l'imaginaire collectif et Franck Ferrand a décidé de lui consacrer une émission entière aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Sacha Guitry disait aussi d'elle qu'elle était un personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice, absolument géniale. Je dirais même plus, ajoutait Sacha, géniale à volonté. D'autres l'ont appelée l'étoile, la chérie, l'idole, le zim-boum-boum ou en toute simplicité, la divine Sarah. Elle était le monstre sacré par excellence et elle mettait en révolution tous les pays qu'elle traversait. Je vous propose cet après-midi de la suivre pas à pas dans la première tournée plus que mémorable qu'elle a effectuée aux États-Unis. C'était en 1880.
Et vous avez aussi invité deux biographes de Sarah Bernard à vous rejoindre, Claudette Joannis et Sophie Haute-Picon. Nos auditeurs peuvent d'ores et déjà leur poser des questions en passant par le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr.
Alors vous aimez les coups, les scandales, les fantaisies, Julia, et les extravagances, vous allez être servis.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Le Figaro, le Petit Journal, la Lanterne, le Petit Moniteur, qu'ils soient républicains ou conservateurs, tous les grands quotidiens de l'époque s'en donnent à cœur joie. En cet automne 1880, ils tiennent leur sujet. Sarah Bernard, en personne, va s'embarquer pour les États-Unis. La légende vivante du nouveau régime, la diva des divas, se lance dans une tournée américaine qui ne sera du reste, mais ça à l'époque on ne peut pas encore le savoir, qui ne sera que la première d'une série de sept pérégrinations triomphales aux Amériques, certains diraient des pérégrinations cultissime. Sarah Bernard est déjà très célèbre, elle n'est pas encore tout à fait devenue la légende vivante qu'elle sera un peu plus tard. On a beaucoup de mal, vous savez, aujourd'hui à se faire une idée de l'extravagance d'un personnage comme celui-ci. Pour vous donner une idée, elle avouera plus tard à Reynaldo Hahn avoir eu l'idée de se faire greffer une queue de tigre. Elle aurait même, semble-t-il, trouvé un chirurgien prêt à tenter l'opération. « Oh, ça m'aurait tant amusé !» lançait-elle. « À certains moments, j'aurais laissé ma queue traîner tranquillement sous ma robe. Et au contraire, dans les moments de colère ou de gaieté, je l'aurais relevée fièrement et elle aurait retroussé ma traîne comme une épée. » À défaut de se faire greffer une queue de tigre, elle adoptera un grand crocodile qui va dévorer ses petits chiens bichons et même un énorme boa constrictor qui s'étouffera à Belle-Île en gobant les coussins d'un canapé. Vous voyez qu'on s'ennuyait pas dans l'entourage.
Oui, extravagance, vous avez dit. Hein.
Bref, la personnalité que nous allons suivre cet après-midi dans sa toute première tournée américaine n'est pas vraiment Madame Tout-le-Monde. Les conditions que son impresario Jarrett lui a consenties pour ce voyage sont inouïes, du jamais vu pour l'époque. 5000 francs or par représentation, l'équivalent d'au moins 20 000 de nos euros. Et encore, vous savez, je me méfie toujours de ces traductions, mais en gros, ça donnerait ça. Plus de 1000 francs hebdomadaires pour ses frais d'hôtel, un wagon Pullman pour elle, qui va la suivre, enfin, qui va lui permettre de faire tous ses déplacements avec une grande chambre, un salon avec piano, des cuisines, des cabines pour son personnel. Et puis, bien sûr, Madame Sarah choisira son répertoire, ses comédiens, son programme, tout. Néanmoins, elle est un petit peu inquiète d'aller se produire dans des endroits que les Européens ne connaissent même pas. Il lui a fallu se séparer de Maurice, son fils unique de 15 ans, qui est toute sa vie. Et comme pour compenser, elle emmène sa propre sœur, Jeanne, sa petite sœur. On peut dire que l'excitation de la nouveauté aura vite fait de balayer les réticences des deux sœurs.
Thank you.
L'ouverture de La fille du tambour major d'Offenbach sur Europe 1, Franck.
Alors imaginez que nous soyons le 15 octobre 1881, on est là sur les quais du Havre et sous les hurrahs d'une foule immense venue faire ses adieux à l'étoile, Sarah Bernhardt monte à bord du paquebot à vapeur l'Amérique, où elle prend possession de la grande suite de première classe. Le temps est affreux, en fait l'océan est démonté, mais Sarah elle a toujours ce côté, elle crade, vous savez, elle feint d'être au-dessus de, toutes ces contingences. La mer est admirable dans sa colère, dit-elle au pacha. Tenez, commandant, il n'y a que nous autres les maigres pour supporter les fatigues, pour résister aux intempéries. Il n'y a que les maigres qui sachent réagir. L'avenir est aux maigres. Et elle n'a pas fini sa phrase qu'elle verdit, elle titube et on la voit disparaître dans sa cabine, dont elle ne sortira que 3 bonnes journées plus tard. La traversée à l'époque dure 12 jours. 12 jours qu'elle passe essentiellement sur son lit en compagnie du bel Angelo, un jeune premier qui doit lui donner la réplique durant la tournée. Il ne se contente pas de lui faire répéter ses rôles, si l'on en croit la comédienne Marie Colombier, qui elle aussi est du voyage et qui n'aura de cesse de ragoter contre Sarah Bernhardt. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quasiment la révolution. Là, aux États-Unis, on peut dire que toute la population, comme un seul homme, a les yeux tournés vers le port de New York où doit débarquer incessamment cette Sarah Bernhardt qui occupe absolument toutes les conversations. C'est vraiment là-bas l'événement majeur de cette fin d'année. Un événement qui va jusqu'à éclipser dans la presse le percement du canal de Panama dont on vient de lancer le tout début des travaux. Les affiches, les articles, les libelles, les brochures sont innombrables et l'on entend courant les rues de petits vendeurs à la criée qui annoncent 25 cents pour les amours de Sarah Bernhardt, 25 cents. Dans cette fameuse brochure, il est écrit noir sur blanc que la comédienne française aurait eu 4 enfants de 4 pères différents, évidemment, un coiffeur, bon, un condamné à mort pour parricide, ça c'est déjà pas plus mal, Napoléon III et le pape Pie IX. Voilà ce qu'annonce en tout cas la brochure. Un autre libelle plus malin montre en couverture une Sarah maigrissime avec ce titre « too thin », ce qui veut littéralement dire « trop mince », mais en argot new-yorkais, ça veut dire « à d'autres hein, », c'est pas à nous qu'on va la faire. Le jour où le paquebot l'Amérique se profile enfin sur l'horizon d'Est, un peuple de petits bateaux surchargés de journalistes se porte au-devant de lui, au-devant d'elle en vérité. C'est à qui apercevra le premier l'idole. On se lance à l'abordage du navire et sur le quai qui a été jonché de fleurs retentit une Marseillaise. Marseillaise revue un petit peu dans l'esprit country. Sophie Haute-Picon, dans la belle biographie qu'elle vient de consacrer à Sarah Bernhardt, nous dit « Les Américains sont venus en masse admirer la femme fatale, la collectionneuse d'hommes aux toilettes fabuleusement chères. Ils voient d'abord une jeune femme pâle et à l'air distingué, manifestement épuisée par le voyage, qui prend une attitude digne et recueillie dès que se font entendre les premiers accents de la Marseillaise. Les représentants officiels de la France se pressent pour les présentations de rigueur. Les journalistes la bombardent de questions, si bien que Sarah finit par prendre le parti de s'évanouir, ou plutôt de faire semblant de perdre connaissance afin d'échapper un moment au fastidieux défilé.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément au cœur de la première tournée de Sarah Bernhardt aux Amériques, Franck.
Alors le directeur de la tournée, qui s'appelle Ebay, a promis à tous les journalistes que Sarah les recevrait individuellement à l'hôtel. Or, ils sont plus de 50. Est-ce bien nécessaire, demande la comédienne, qui n'est pas du tout habituée à tout ça. Oh yes, il était nécessaire, lance Jarrett, qui en profite pour lui expliquer qu'aux États-Unis tout passe par la presse et qu'il convient, contrairement à ce qui se pratique alors en Europe, de soigner les journalistes. Sarah se renfrogne et sitôt à l'hôtel, elle s'enferme à double tour et refuse d'ouvrir à Jarrett qui tambourine à sa porte. « Je vais forcer cette porte !» menace-t-il. « Oh, vous ne la connaissez pas !» le prévient une gouvernante. « Si vous faisiez ça, elle serait capable de sauter par la fenêtre. » Après s'être fait désirer, la divine paraît enfin au salon de l'hôtel, dans une robe blanche comme la neige, et elle bat des mains en apercevant, à demi caché par la foule des journalistes, les bustes de Molière, de Racine, de Hugo, qu'on a placés là pour lui être agréable. Cette fois, les questions pleuvent, ce à quoi, une fois encore, on n'est pas du tout habitué en Europe à l'époque. « Madame, quel est le rôle que vous préférez ? Cela ne vous regarde pas », répond-elle, cassante. Et elle tourne aussitôt le dos à l'indiscret. « Que mangez-vous dans la journée ?» Oh, Sarah soupire. « Des moules !» Vraiment, insiste le journaliste, à longueur de journée, magnificent. Une jeune femme en tailleur jupe lui demande si elle est juive, catholique, protestante, musulmane, bouddhiste, athée, zoroastrienne ou déiste. C'est très américain. Cette fois, Sarah souffle carrément et elle titube jusqu'à un canapé. « Ah mon Dieu, est-ce que ça va être comme ça dans toutes les villes où je vais aller » demande-t-elle. « Non, non, la rassure Jared, dès ce soir, vos réponses vont être télégraphiées dans toute l'Amérique. » Et Sarah comprend qu'aux yeux de millions d'Américains, elle ne va plus tarder à apparaître comme cette Française qui mange des moules à longueur de journée. Le lendemain, on la conduit au théâtre sur la scène duquel ont été alignés ses 42 mâles de costume. Pas question d'y accéder néanmoins parce que pour le moment, tout ça est aux mains des douanes. C'est Sarah elle-même qui nous raconte la scène, je la cite. « Leur chef souleva le melon qui lui servait de coiffe et me dit sans ôter le cigare de sa bouche une phrase incompréhensible. Puis, se tournant vers son escouade, il fait un geste brusque souligné d'un mot sec et les 40 mains sales de ses hommes s'abattirent sur mes satins, mes velours, mes dentelles. » Là, la comédienne pousse un cri, se précipite pour sauver les précieuses étoffes de ce qu'elle qualifiera de viol outrageux. Jean, elle exige que ses costumières remplacent les factotums pour les manipulations indispensables. Et pendant des heures, tous les somptueux costumes de scène et de ville sont donc extraits des mâles et disposés le plus soigneusement possible sur la scène. Le soir venu, voyant qu'il sera impossible de tout ranger avant la nuit, Sarah va faire acheter quelques 500 mètres de tarlatane bleue pour couvrir la véritable montagne de robes et de chapeaux qu'on a comme ça entassés sur la scène. Ce soir-là, Sarah Bernhardt est conduite au Park Théâtre pour assister au spectacle de Clara Morris. Clara Morris est un petit peu la Sarah Bernhardt locale. La pièce est déjà commencée quand la Française et sa suite pénètrent dans leur loge d'avant-scène et aussitôt, les acteurs s'interrompent. L'orchestre attaque la Marseillaise et la salle se lève pour une standing ovation. Clara Morris s'avance vers le proscenium. Elle jette un baiser à la Parisienne qui aussitôt arrache de son corsage un petit bouquet de roses blanches et elle jette le bouquet aux pieds de la New-Yorkaise. La première de Sarah Bernhardt au Booth Théâtre de New York est prévue pour le 8 novembre. Elle doit y jouer Adrienne le Couvreur. Le fauteuil est à 10 dollars, ce qui est énorme. Et pourtant, les places se sont arrachées. Maintenant, elles se vendent même aux enchères. En vérité, le tout New York est attiré autant par le souffle que par la réputation théâtrale de la Française. Toutes les ligues puritaines d'Amérique sont en effet sur les dents. On n'en finirait pas de dénoncer, enfin de reprendre tous les libelles qui à travers les États-Unis dénoncent ce qu'ils considèrent comme le diable en jupe. L'évêque de Chicago a pesté en chair au point que Jarrett lui a envoyé ce billet. Monseigneur, j'ai l'habitude quand je viens dans cette ville de dépenser pour la publicité 400 dollars, mais cette fois, comme vous l'avez fait pour moi, laissez-moi vous envoyer 200 dollars pour vos pauvres. Le soir du 8 novembre, Sarah entre donc en scène pour la première fois sur le continent américain dans un silence religieux, bientôt troublé par le bruit des feuilles de livret de traduction. Vous savez que le public tourne à mesure qu'elle joue. Il n'empêche, dès la première représentation, elle connaît un triomphe inouï. 27 rappels et la foule accompagne son fiacre jusqu'à l'hôtel où une fanfare vient jouer la Marseillaise sous ses fenêtres. Elle doit paraître au balcon comme une reine et la foule crie « Good night, Sarah, good night !» Colette Johannis pose la question « À quoi peut-on bien tenir le succès de Sarah Bernhardt dans une Amérique si réfractaire, au dire de certains, à l'art dramatique, quand de surcroît les pièces données en français échappent à la compréhension du plus grand nombre ? On a beau distribuer avant chaque représentation des livrets en anglais résumant l'intrigue, cela ne change rien au barrage de la langue. C'est si vrai qu'un jour, au lieu du résumé de Phèdre, on distribue celui du Sphinx d'Octave Feuillet, et personne ne remarque l'erreur. » En fait, on ne vient pas applaudir un répertoire. On vient entendre une voix magique et qui n'a pas son égal. On vient assister à un miracle qui se produit à chaque fois qu'elle entre en scène et qu'elle commence à déclamer. On vient applaudir une comédienne dont les gestes et les expressions du visage font à eux seuls vibrer d'émotion une salle entière. Le succès est au rendez-vous dans les vitrines des magasins. Les portraits de la comédienne éclosent du jour au lendemain, mais aussi la poudre de riz Sarah Bernhardt, le savon SB, les gants Sarah, les cravates, les lunettes à son nom. Imperturbable, la comédienne enchaîne les grands rôles de son répertoire, et notamment Phèdre, où elle triomphe particulièrement, lors de la dernière séance new-yorkaise. Sarah joue la dame aux camélias, elle est rappelée 17 fois après le troisième acte et 29 fois après le cinquième acte. Ce sera le record de toute sa carrière, vous imaginez un peu le délire. Et devant le théâtre, ce sont 5000 personnes qui l'attendent dans une hystérie générale. « Oh non, lâche-t-elle, je n'en peux plus. Cette fois, je n'en peux plus. » Alors le directeur de la tournée a une idée. Il propose à la sœur de Sarah de revêtir le chapeau, le boa, la tenue en quelque sorte de sa sœur et de sortir à son bras. Le subterfuge fonctionne à merveille et la vraie Sarah va pouvoir s'éclipser et rentrer au théâtre une heure avant sa sœur.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1, le parcours de la première star de l'histoire, Sarah Bernhardt.
Parcours en train spécial, un train couvert de drapeaux, de guirlandes de fleurs qui, dès le lendemain de la dernière représentation new-yorkaise, emmène donc la diva pour sa grande tournée à travers les États-Unis et le Canada. Première destination, Boston. Et en route, le train va s'arrêter en pleine nuit à Menlo Park, vous savez, où réside l'homme le plus célèbre du pays. Une véritable légende vivante à l'époque, lui aussi Thomas Edison, qui a souhaité saluer la comédienne française lors de son passage. Edison présente à Sarah Bernhardt ses lampes électriques, mais aussi le premier téléphone qu'il vient de perfectionner. Il lui fait aussi une démonstration de ce phonographe sur lequel, vous savez, plus tard, elle enregistrera quelques tirades. Ces tirades constituent pour nous un témoignage inestimable de l'art de la comédienne, même si c'est un témoignage, vous allez voir, un petit peu traître.
Oui, pas. Je l'enduis, je brûle pour tes yeux, je l'aime. Non, point celle que l'on vit les enfers, voilà, adorateur venu d'objet divers, qui va du dieu des morts, déshonorer la couche, mais si belle, mais fière, et même assez charmante, charmante.
Alors, c'est à la fois assez émouvant parce que c'est la voix même de Sarah Bernhardt, et en même temps, tout ça est déformé, on n'a pas le jeu de scène, on n'a évidemment pas les fameuses expressions du regard.
Bon.
Alors à son arrivée à Boston, Sarah est surprise par la question d'un journaliste qui, sautant sur le marchepied de la voiture, lui demande « À quelle heure allez-vous sur la baleine demain ?»« Oh, encore un fou !» bougonne Sarah. Et le journaliste l'a entendu « Non, non, madame, je ne suis pas fou, je veux seulement savoir à quelle heure demain matin vous irez sur la baleine, à moins que vous n'y alliez dès ce soir, parce qu'on craint qu'elle ne meure dans la nuit. Ce serait dommage que vous ne puissiez lui rendre visite tant qu'elle respire encore. » Alors cette fois, Sarah perd patience. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de baleine ? Oh madame, c'est admirable, elle est énorme, elle est dans le bassin. Des hommes sont employés nuit et jour à casser de la glace autour d'elle. Et soudain, toujours en équilibre sur le marchepied, le journaliste s'écrie « Tiens, justement, le voilà, arrêtez-vous, arrêtez !» Alors la voiture s'arrête et le journaliste pousse à l'intérieur un petit homme coiffé d'un bonnet de fourrure. Il s'appelle Henry Smith et il se trouve être le propriétaire du morutier qui a harponné et rapporté jusqu'au port de Boston cette fameuse baleine. Plus tard, Sarah se posera la question « Par quel tour d'esprit cet homme arriva-t-il à considérer sa baleine et mon nom comme une source de fortune ? Je ne sais. Mais toujours est-il qu'il insista si drôlement, si autoritairement, si violemment que nous fûmes 50 personnes le lendemain à 7 heures du matin à nous rendre sous une pluie glaciale au bassin du quai. » Sarah, aidée par un comédien de la troupe, finit par descendre le petit escalier du quai, par prendre pied sur la baleine, tant bien que mal, parce que le dos de l'animal est couvert de verglas et qu'à deux reprises, elle manque de tomber à l'eau, sur lequel la foule rit, applaudit, on lui crie « Un fanon, arrachez-lui un fanon !» Sarah hésite, je la cite. « Je craignais de la faire souffrir, dira-t-elle, et je la trouvais si malheureuse, cette pauvre grosse bête sur laquelle trois personnes patinaient depuis 10 minutes. Enfin, je me décidai, j'arrachai une petite baleine, comme celle des corsets, et je remontai mon triste trophée à la main, entouré, pressé, énervé. » L'histoire aurait pu en rester là, mais ce serait mésestimer le sens commercial des Américains. Quelques jours plus tard, arrivant à New Haven, Sarah entend du tapage sous les fenêtres de son hôtel. Alors elle écarte le rideau et là elle découvre une immense voiture publicitaire avec une affiche qui la représente, elle, Sarah Bernhardt, en train d'arracher un fanon à la baleine. Et l'affiche annonce « Venez voir l'énorme cétacé que Sarah Bernhardt a tué en lui arrachant des baleines pour ses corsets. Corset réalisé par Madame Lily Noël qui meurt à tel endroit. » La baleine annonce une autre affiche, est aussi florissante de son vivant. Elle a pour $500 de sel dans l'estomac et chaque jour pour le prix de $100, on remplace le banc de glace sur lequel elle se trouve. Sarah est outrée, elle descend dans le hall de l'hôtel, elle tombe sur Henry Smith et le gifle. Elle veut interrompre sa tournée et rentrer en Europe, seulement pas question évidemment de rompre un tel contrat. Il va falloir quand même des heures de diplomatie à Jarrett pour l'apaiser. Et désormais, dans chaque ville où elle mettra les pieds, elle va tomber sur la pauvre baleine, maintenue à peu près à flot grâce au sel et à la glace, une baleine qui fait recette autant que la comédienne elle-même. Heureusement pour Sarah, elle ne va pas pouvoir franchir la frontière canadienne, cette pauvre baleine, et c'est dans des villes sans affiches tapageuses et sans baleine qu'elle va enfin pouvoir retrouver son public. Après les grandes cités prestigieuses, viendront les villes de deuxième ordre, voire de troisième, et la grande Sarah Bernard ira jusqu'à se produire devant des publics indiens, comme nous le raconte dans ce merveilleux, cette très belle conférence filmée « Ceux de chez nous », comme le raconte donc Sacha Guitry.
Voici dans celle qui fit 10 fois le tour du monde en récitant des vers. Elle est allée jusque chez les Peaux-Rouges. Elle a joué devant eux en plein air, et chaque fois qu'ils la trouvaient particulièrement admirable, ils tiraient des coups de feu en signe d'allégresse. Elle a vu tant de gens à ses pieds, elle a reçu tant d'hommages que rien n'aurait pu la surprendre. Et un jour qu'elle partait pour sa propriété de Belle-Île, rencontrant sur le quai de la gare le préfet de police qui lui-même allait à la campagne, elle lui dit « Merci de vous être dérangé ».
Après 27 semaines de ce régime et quelques 256 représentations, le moment est venu pour Sarah Bernard de reprendre le paquebot pour la France. Ah, son retour sera triomphal, évidemment, bien plus marquant que ce qu'on aurait pu faire pour le président Grévy en personne. Fanfare, discours, drapeau, enfin bref, en même temps, pour Madame Sarah, tout ça n'est que routine. Je vous ai parlé de Claudette Joannis et de Sophie Haute-Picon. Eh bien, aussitôt après le flash, ces deux biographes de Sarah Bernard seront avec nous pour revenir sur la personnalité incomparable de la divine ou sur la personnalité divine de l'incomparable.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et pour cette émission consacrée à la divine Sarah Bernard, deux biographes sont avec nous. Sophie Haute-Picon, qui est auteure de Sarah Bernard chez Gallimard, et Claudette Joannis, auteure du livre Sarah Bernard à la petite bibliothèque Payot, Franck.
Oui, ce sont deux livres qui sont en format poche, si vous voulez, mais qui ont le mérite de donner une analyse très fouillée, beaucoup d'éléments sur Sarah Bernard. On va revenir dans le détail sur tout ça. Jules Lemaître disait d'elle, elle pourrait entrer dans un couvent, découvrir le pôle Nord, s'inoculer le microbe de la rage, tuer un empereur ou épouser un roi nègre, que je n'en serais pas surpris. Elle n'est pas un individu, elle est un complexe d'individus. Il faut dire que pendant 50 ans, on n'a parlé que d'elle à tout propos et sans arrêt, au point que le dramaturge Charles Naret déclara sur son lit de mort « Oh, finalement, je suis content de mourir. Au moins, je n'entendrai plus parler de Sarah Bernard. » On parlait énormément de Sarah Bernard, mais on se rend compte, Claudette Joannis, que lorsqu'elle arrive aux États-Unis, elle est aussi connue de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle l'était en France et en Europe.
Elle l'était en France, c'est vrai, mais c'est tout de même à l'étranger qu'elle va trouver la gloire. Et en France, elle était plutôt célèbre pour ses excentricités. Oui. Et aussi parce que ça a été, pendant toute son enfance, une jeune fille qu'on appelait toujours Mademoiselle Révolte, et qui se distinguait justement par ses accès d'humeur, et plus par sa personnalité déjà que par son talent, car son talent vient tout de même assez tard.
Son talent, finalement, il est une sorte... C'est presque ses talents de maturité dont on parle
C'est pas tout à fait cela, mais c'est en tout cas un retour sur elle-même. Car toute jeune, elle n'a absolument pas envie justement d'être comédienne. Elle a plutôt envie d'entrer dans les ordres, ce qui est une attitude et un vœu qui n'est pas compatible avec les idées de sa mère.
Et du reste, c'est au couvent, c'est à Versailles, qu'elle va. Elle veut entrer dans les ordres alors que sa mère était juive, il faut dire.
Oui, mais elle-même se revendique. Donc à ce propos, en effet, Sarah est très partagée parce qu'elle aime se rappeler qu'elle a été baptisée. Donc elle est tout de même catholique. Et en même temps, elle a tout de même son sang israélite qui coule dans ses veines. Elle aime bien en parler.
Alors justement, je voulais dire que c'était dans ce couvent que pour la toute première fois, elle est montée sur les planches, si l'on peut dire. C'était une toute petite scène pour une toute petite représentation, mais ça a marqué sa vie, ça, Sophie Haute-Picon.
Oui, ça aurait marqué sa vie. En tout cas, elle se plaît à le rappeler dans son autobiographie.
Qu'il faut prendre avec des pincettes,
puisque c'est elle-même qui dessine son propre portrait. Et elle s'attache en particulier à ce moment-là, oui, de sa première interprétation en public, où elle aurait joué, enfin, elle a joué, l'ange Raphaël dans Toby recouvrant la vue, une pièce écrite par une des sœurs du couvent dans lequel elle a été placée.
Donc à Versailles.
À Versailles, à Grandchamp. Et alors, elle aurait joué même ce rôle à la suite d'une défection d'une camarade, ce qui est quand même intéressant parce qu'elle n'aurait pas été distribuée initialement à cause de son caractère et de sa personnalité un peu difficile. Et donc, la jeune camarade qui devait jouer cet ange Raphaël, ayant été prise d'un trac affreux le jour de la générale, Sarah avait assisté à toutes les représentations, elle connaissait le rôle par cœur et elle a donc...
On l'appelait Rosine, c'est ça, je cherche le...
Oui, elle s'appelait Rosine, ouais. Encore à l'époque, son prénom c'était Rosine Sarah en fait, mm-hmm. Elle a ensuite choisi celui de Sarah et donc elle l'a remplacé au pied
toutes
levé.
Toutes les petites filles disent Rosine connaît le rôle, donc finalement elle remplace.
C'est ça, exactement, et donc elle l'a remplacé.
Alors on s'est beaucoup demandé, il faut dire que sa mère était, comment pourrait-on la nommer, une dame de...
Une grande cocotte de l'époque.
Elle avait d'ailleurs toutes sortes de... Elle avait tout un aréopage d'admirateurs.
Elle et sa sœur, parce qu'elles étaient connues pour avoir un salon en commun, disons.
Et tous ces gens se sont réunis dans une sorte de conseil de famille un peu particulier pour décider du sort, qu'est-ce qu'on allait faire de la petite. Et c'est Alexandre Dumas qui a l'idée d'en faire une comédienne.
Ça n'est pas vraiment Alexandre Dumas, c'est le duc de Morny. Le duc de Morny, qui joue un rôle très important dans la famille, parce que justement, il est l'amant de la tante de Rosine, non pas
duc
de la
Morny,
mère.
Donc le demi-frère de Napoléon III.
Et comme cela, apparemment, pour s'amuser, parce qu'il en a assez de ce conseil de famille qui n'en finit pas, et il décide, dit, mais pourquoi n'en ferions-nous pas une comédienne? Et en fait, c'est une idée qui séduit tout le monde, sauf l'intérêt, c'est-à-dire sauf Sarah, qui est extrêmement malheureuse. Et en fait, elle va avoir beaucoup d'appui au début. Elle va être introduite auprès de Aubert, elle va être introduite par Morny, par l'aide de Morny.
On a des relations
on a toutes les relations nécessaires. Mais Sarah, toujours très entière et très révoltée, lorsque Aubert lui demande justement, mademoiselle, êtes-vous intéressée, aimez-vous le théâtre? Elle répond non. Donc déjà, il y a beaucoup à faire pour arriver au succès quand on commence comme ça.
Alors c'est bien Alexandre Dumas, en revanche, qui lui fait répéter ses scènes pour le conservatoire.
Peut-être lui, mais elle a... Oui, c'est peut-être lui. En tout cas, lui a un avis. Elle a les cheveux trop frisés et il lui dit que de toute façon, elle ne réussira jamais si elle n'arrive pas à les défriser. Donc, il a une opinion déjà sur son aspect extérieur.
C'est-à-dire qu'elle est très maigre aussi. Hein. Elle a un look, si je puis dire, un peu particulier. On a de très belles photos d'elle par Nadar, du reste. Hein. Elle est sublime, étant toute jeune.
Elle est sublime, mais elle n'est pas du tout dans le goût de l'époque, en fait. Donc, elle est effectivement
très moderne,
maigre.
Finalement.
Tout à fait. Elle est très moderne. Elle a su en profiter, elle a su en jouer. Mais ça lui a beaucoup, en fait, ça l'a beaucoup desservie au début, dans ses débuts au théâtre, en particulier quand elle a été engagée à la Comédie Française, puisqu'elle a fait ses débuts, comme on disait à l'époque, dans le rôle d'Iphigénie, et que, lorsqu'elle implorait dans la scène d'imploration, elle levait les bras, elle avait une robe sans manches, elle levait les bras pour implorer pour sa vie, en fait. Et on a entendu, enfin, les critiques ont rapporté que dans le parterre et dans le poulailler, on entendait les gens dire, mais tu vas t'empaler avec ces cure-dents. Donc ça a donné lieu à toute une série de caricatures qui, en fait, ont été aussi très bénéfiques pour elle, puisqu'on a beaucoup parlé d'elle, en fait. Et sa maigreur était aussi à l'origine, en fait, des caricatures qui ont commencé à foisonner au moment de son départ, au moment où elle a été chassée.
Alors, très violent caractère. Et un jour, c'est pour la fête de Molière, donc aux Français, en février, ouais. Hein, la fameuse fête bisannuelle. Là. Finalement, elle amène sa petite sœur,
sa petite Jeanne. C'est Régina qu'elle amène, elle a deux sœurs, en fait. C'est la plus petite qui était aussi...
Qui avait 7-8 ans, peut-être.
Oui, une petite dizaine d'années.
Et alors, la petite sœur a la mauvaise idée de monter sur la traîne d'une des sociétaires, qui est Madame Nathalie en personne.
Qui était très imposante, en forme. Et Mademoiselle Nathalie s'offusque de la présence de cette petite, qui l'empêche donc d'avancer. Peut-être que c'était un petit peu, d'ailleurs, fait exprès de la part de la petite Régina. L'envoie valdinguer contre un mur, enfin, ou un pilier. Sarah s'emporte, défend sa sœur, gifle la sociétaire.
Vache, dit-elle.
Voilà. Et elle est convoquée par l'administrateur du Français qui la somme de s'excuser et lui dit que de toute façon elle aura même une amende à payer pour réparation puisqu'il y avait une règle de hiérarchie et la préséance à la sociétaire en place alors qu'elle n'était que toute jeune pensionnaire. Elle refuse et elle est donc chassée de la Comédie Française sur ce geste dont les caricaturistes vont s'emparer. C'est la première fois qu'on va autant parler d'elle en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait pour elle c'est un gros accident de parcours, mais c'est un accident de parcours qui sert déjà sa notoriété. Il y a un sens inné chez cette femme de la publicité.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de l'heure exquise interprétée par Maggie Tate. Nous parlons aujourd'hui de la divine Sarah Bernhardt. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Deux biographes sont aux côtés de Franck et pour nous poser vos questions, c'est europe1.fr.
Sarah Bernhardt qui va traverser là un moment un peu difficile. Juste un mot sur Reinaldo Hahn, puisqu'on vient d'entendre ce petit extrait. Ami de Sarah Bernhardt, mais aussi ami de Marcel Proust. Et demain, nous parlerons de Proust. C'est presque une émission en deux volets cette semaine. Donc, oui, je disais, Sarah Bernhardt qui traverse un moment difficile après son départ du Français. Elle est à la recherche de rôles qu'on ne lui donne pas. Elle va se demander un moment si elle ne deviendrait pas courtisane elle-même. Du reste, est-ce qu'elle l'a été un peu ?
Elle l'a été très certainement. Il y a un petit peu de mystère, en effet, après son départ du Français en 1862. Mais elle va en effet vivre d'expédients. Elle va partir pour l'Espagne, semble-t-il, d'après ce qu'elle écrit. Elle va avoir un fils, ce n'est quand même pas inintéressant.
Avec qui ? Alors, avec le prince de Ligne ?
Avec le prince de Ligne, on l'apprendra plus tard, mais elle n'en parlera pas et elle élèvera seule son fils. Et puis, elle le joue en effet des petits rôles, mais elle va très rapidement se ressaisir et surtout lorsqu'elle va commencer à travailler au théâtre de l'Odéon et elle va dire à George Sand qu'elle sera la plus grande actrice du monde ou pas du tout. Donc, elle a pris déjà ses dispositions, elle va faire en sorte de devenir la meilleure. Et elle va montrer sa particularité, surtout dans son jeu et dans sa silhouette, dans un rôle qui va être très important pour elle, qui est Le Passant, en 1869. Car là, sa minceur va lui permettre de jouer un rôle de travesti, le petit Zanetto, dans une pièce de François Coppé, Le Passant. Et à partir de là, d'ailleurs, elle montrera que jusqu'à 60 ans, elle peut toujours jouer des rôles de travesti grâce à sa minceur.
Alors, comme tout le monde, elle a été bien sûr surprise par la violence de ce qui se passe en 1870, la guerre perdue contre les Prussiens, l'effondrement du Second Empire, la Commune de Paris qu'elle fuit, bien entendu.
Oui, elle préfère éviter la Commune. Elle a été pourtant elle a pris position, au moment de la guerre, en organisant une ambulance, c'est-à-dire un hôpital de guerre, en fait, dans les murs du théâtre de l'Odéon. Tous les théâtres étaient fermés, évidemment, au moment où le siège s'est rapproché. Mais au moment de la Commune, d'abord, elle était partie rechercher sa famille, qui s'était exilée loin de Paris au moment où les Prussiens s'approchaient. Et ensuite, elle a regardé ça de très loin. Elle n'avait pas vraiment de position politique. Mais c'était une grande patriote, en revanche. Et elle a beaucoup servi, défendu, porté l'image de la France, en particulier dans ses tournées internationales, comme celle dont vous parliez tout à l'heure.
Après l'effondrement du Second Empire, rentre en France, rentre à Paris, le grand homme de l'époque, évidemment, qui était en exil depuis si longtemps, c'est Victor Hugo. Et elle va jouer Ruy Blas. Ça, c'est un moment très important dans sa carrière, Sophie Haute-Picon.
Absolument, absolument. C'est même ce qui va lui permettre de rentrer, en fait, de revenir triomphante à la Comédie Française, pour un temps. Le triomphe dans le rôle de la reine de Ruy Blas, là c'est pas un rôle de travesti, qu'elle remporte au moment où il est présenté le retour de l'exilé du renégat et accueilli au théâtre de l'Odéon. Alors elle devient la reine des étudiants en fait.
Mais c'est ça, oui, elle est vraiment l'égérie du quartier latin, on
absolument,
peut dire, les gens
oui.
vont. Dans Ruy Blas, elle porte une robe, notamment une robe somptueuse, qui aujourd'hui même est exposée dans une exposition qui s'appelle « L'art du costume à la Comédie française ». Et pour nous parler de cette robe, de cette exposition, de cet univers, nous avons en ligne Muriel Mayette du Français. Bonjour Muriel Mayette.
Mais bonjour.
Vous êtes à Orange du reste en ce moment.
Absolument, parce que je monte Andromaque que l'on va tourner en direct du Théâtre Antique d'Orange avec France Télévisions vendredi 17.
Mais c'est bien ça, il faudra pas manquer ça, ce sera diffusé en direct.
Absolument, à 22h.
À 22h, on aura donc Andromaque ce vendredi. Hein,
exactement, c'est... quel grand retour de la Comédie française dans ce Théâtre Antique. C'est Mounet-Sully qui avait emmené la troupe dans les années 50. Et chaque année, la Comédie française s'y produisait, essentiellement sur le répertoire tragique d'ailleurs.
Mais c'est bien d'y revenir. Alors Muriel Mayette, cette robe de Sarah Bernhardt dans Ruy Blas est donc l'un des clous, si je puis dire, de l'exposition que l'on peut voir en ce moment à Moulins dans l'Allier.
Je dirais pas ça parce que l'exposition commence en 1750 et finit dans les années 2000.
La oui, robe, alors évidemment.
Cette robe, elle est à Moulins. Elle n'est pas la star de l'exposition. C'est une robe qui est extrêmement lourde. Qui est en perles, qui a été peinte. D'ailleurs, on a la Comédie française, le tableau de Sarah Bernhardt portant cette robe. C'est un tableau de Clairin. Mm-hmm. Et c'est une robe qui a une grande traîne, à rose, tout à fait brodée en perles, et qui devait faire des centaines de grammes sur les épaules en plus.
Qu'est-ce que vous montrez dans cette exposition, qui est une exposition événement, il faut le souligner.
C'est une grande exposition parce qu'on y voit l'évolution du costume. C'est une sorte d'histoire de France. C'est ce qui relie les acteurs entre eux parce qu'un costume, d'abord, il raconte l'évolution de la dramaturgie, mais il a surtout été porté par un artiste.
Bien sûr.
Et parfois, il est reporté quelques années plus tard et remis à la taille d'un nouvel acteur, etc., etc. Donc c'est une immense chaîne qui nous relie et on a une collection historique puisque je vous ai dit, ça commence avec un costume de 1750 tressé en ortie qui appartenait à un acteur qui s'appelait Monsieur Dugazon. C'est extraordinaire, on a la petite chaussure de Rachel.
Oui, je l'ai là en photo sous les yeux.
C'est une grande exposition qui nous raconte l'évolution des corps, l'évolution de la dramaturgie. On a des soirées de Chine, les premières soirées du 18e qui ont été rapportées.
Splendeur de ces costumes, vraiment.
C'est une merveille, d'autant qu'on sent qu'ils ont été habités et que les costumes de Tate s'abîme à une vitesse beaucoup plus grande qu'un costume de ville, parce qu'ils sont habités par des émotions.
Oui, ça peut se faner au feu des émotions, en
absolument,
quelque sorte.
Absolument.
D'où viennent-ils, tous ces costumes?
C'est une collection que nous avons. On a aussi une mémoire de maquettes, de dessins. Mais enfin, cette collection de costumes est historique, parce qu'on a réussi, on a une capacité dans nos ateliers à garder toute cette mémoire. Et c'est la première fois qu'on arrive à montrer autant de nos richesses.
Merci beaucoup de cette très jolie parenthèse, Muriel Mayette. Vous êtes administrateur général de la Comédie française et vous étiez en direct d'Orange, de ce merveilleux Théâtre Antique d'Orange.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
De Mademoiselle Révolte à l'idole, nous retraçons aujourd'hui sur Europe 1 le parcours de la comédienne Sarah Bernhardt.
Oui, on l'appelait aussi Miss Scandale dans ces années, quand elle est revenue au moment de son grand retour à la Comédie française. Alors, puisque nous étions dans les costumes, Claudette Joannis, vous êtes vous-même spécialiste des costumes. Vous vous occupez d'une collection qui appartient à la maison de retraite des artistes de Couilly-Pont-aux-Dames, une maison qui a été fondée par Coquelin. Hein. Coquelin est né en 1905.
Oui.
Le Cyrano de Bergerac inoubliable.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette collection-là? Est-ce qu'on peut la visiter d'abord, la collection?
Pour l'instant, non, mais il faut espérer
dommage,
que ce sera simplement le jour de la journée du patrimoine où
oui.
C'est possible et où nous sortons en fait un certain nombre de ces costumes. Mais il y a un costume de Sarah Bernhardt.
Alors, ces costumes ont fait partie, évidemment, de la légende de Sarah Bernhardt. On l'imagine toujours dans un certain nombre de ses plus grandes tenues, toujours des robes qui soulignent son côté
absolument.
Très élancé, un peu hiératique.
Oui, et il faudrait aussi se souvenir qu'en fait, elle est née à la période de Louis-Philippe et qu'elle est morte dans les années folles.
Mais c'est ça.
C'est-à-dire que lorsqu'elle passe le conservatoire, elle est au conservatoire, elle a une robe à crinoline tout de même. On n'a pas l'habitude du tout de voir Sarah comme ça.
Oui.
Et puis on la voit très déshabillée dans Lorenzaccio aussi.
On la voit souvent en travesti aussi. Elle aime
les rôles d'hommes. D'ailleurs,
surtout
elle trouve
les cerveaux d'hommes.
Oui.
C'est ce qu'elle dit en effet. Et pour être dans les cerveaux d'hommes, elle s'habille en homme. Mais elle porte une attention extrême à tous ses costumes. Et en fait, le costume fait partie de l'allure qu'elle peut avoir sur scène. Et c'est pour elle aussi important probablement que sa voix et que le rôle qu'elle joue. Donc elle accorde des quantités, enfin un argent énorme à la fabrication de ses costumes. Et vous parliez tout à l'heure des malles justement qu'elle avait emportées et qui rendaient jalouses toutes les couturières des États-Unis.
Est-ce que ces extravagances, là, je m'amusais, je vois qu'elle s'envole en ballon libre, elle se fait photographier dans son cercueil, ça c'est bien connu. Elle organise une exposition de ses sculptures, car elle est aussi sculpteur. À Londres, elle achète un guépard, un loup, des caméléons, et elle installe tout ce monde-là dans son hôtel de la rue Fortuny, qu'elle fera brûler, qui brûlera en tout cas, même à deux reprises. Est-ce que tout ce scandale est fabriqué pour faire parler d'elle, ou est-ce qu'elle est d'un naturel extravagant, Sophie Haute-Picon?
Je crois qu'elle avait un naturel assez extravagant et que elle a ensuite appris à exploiter ce naturel et à ne pas le brider. Donc, elle a sa passion pour les animaux, qu'ils soient sauvages, de grande ou de petite taille, est réelle. Enfin, elle avait quand même une volière chez elle. Elle avait donc effectivement, vous l'avez rappelé, elle avait des chiens, des guépards. Elle a donc eu cet alligator qu'elle avait récupéré au moment de sa première tournée dans la Nouvelle-Orléans. Au moment de la crue du Mississippi, enfin, elle a une vraie passion et une fascination pour les bêtes sauvages, qui je pense est sans doute liée à son instinct lui-même un peu sauvage ou un peu fou ou un peu excentrique.
Ce goût du sauvage, on le retrouve dans ce qui est aujourd'hui la maison la plus spectaculaire et aussi la plus représentative de ce qu'elle a pu être, c'est-à-dire la maison de la Pointe des Poulains à
Belle-Île.
À Belle-Île-en-Mer.
Hein. Mmh.
Un fort, en fait, qui est perdu au milieu d'une espèce de côte un peu désolée, battue par les vents.
Extrêmement sauvage.
Sauvage,
oui. Tout à fait. Et qui avait, c'était l'endroit où elle se plaisait à venir pour s'y ressourcer, s'y reposer. Et elle est venue depuis le moment où elle l'a acquis, jusqu'à quasiment sa mort.
C'est-à-dire les années
1885,
c'est ça?
Oui, je crois.
Oui, jusqu'à 1922, je crois. Un an avant sa mort, elle a souhaité le vendre, mais autrement, elle y était très bien.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan de la santé, elle a eu d'énormes problèmes. Elle a perdu un poumon.
Elle n'a pas vraiment perdu un poumon. Elle a eu des opérations. C'est-à-dire qu'elle semblait tuberculeuse parce que elle crachait du sang. C'était sa manière de montrer sa crainte, en effet son trac. Mais il ne semble pas que cet été vraiment très important. En revanche, ce qui a été très important pour elle et terrible, c'est la chute qu'elle a pu faire et qui a blessé son genou droit et qui l'a blessé à tel point qu'elle a dû finalement, en 1914, être amputée. C'est-à-dire que, dame d'énergie comme elle était, comme on la disait, elle ne s'arrêtait jamais. Elle n'avait pas voulu écouter les médecins qui
lui
disaient...
Elle perd cette jambe pendant la Grande Guerre.
Elle supplie qu'on la lui coupe parce qu'aucun chirurgien n'ose couper la jambe d'une femme actrice qui a 70 ans. Donc le chirurgien Pozzi, qui est le célèbre chirurgien des stars, refuse et c'est finalement un chirurgien plus inconnu qui lui coupe la jambe à Bordeaux.
On célébrera l'année prochaine le centenaire du jubilé de Sarah Bernhardt au théâtre Sarah Bernhardt à l'époque, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui le théâtre de la Ville. Et c'est à cette occasion évidemment que l'immortel Edmond Rostand avait fait son fameux sonnet en ce temps sans beauté. Seul encore tu nous restes, sachant descendre pâle un grand escalier clair, ceindre un bandeau, porter un lys, brandir un fer, reine de l'attitude et princesse des gestes. Claudette Joannis, Sarah Bernhardt, s'est édictée dans la petite bibliothèque Payot. Et Sophie Haute-Picon, Sarah Bernhardt, c'est une biographie en livre de poche, mais inédite également chez Folio Biographie. Merci beaucoup d'avoir éclairé ce personnage extraordinaire. Reine de l'attitude et princesse des gestes. Pour vous servir, Faustine Bollard.
Bonjour
Faustine.
Franck, merci de cet accueil. Bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 aujourd'hui, on va se demander si notre rang de naissance a une influence sur notre caractère. En effet, selon plusieurs études, les aînés seraient ambitieux et perfectionnistes, les benjamins seraient charmeurs et créatifs et les cadets plus ouverts d'esprit. Qu'en pensez-vous? Avez-vous le sentiment de vous reconnaître au sein de votre propre fratrie, à moins que ces indices vous permettent de mieux comprendre le comportement de vos enfants? On va en parler tous ensemble. On attend tous vos témoignages, bien sûr, et vos anecdotes sur vos fratries dès à présent au 39-21. On est en direct sur Europe 1, Franck.
Moi, je confirme ce premier aperçu.
Je ne sais pas si vous êtes cadet, Benjamin.
Oui,
mais...
Je suis né, en l'occurrence.
Ah, c'est tout à fait. Vous, perfectionniste, responsable et ambitieux.
À demain,
c'est pour
cher
ça que
Franck.
Je vous ai...